France Culture, Avoir raison avec Bertha von Suttner, Margot Loridon.
Il faut fouiller patiemment dans les archives de la nébuleuse européenne pour tomber sur un hommage rendu par les 27 à Bertha von Suttner. Une promotion du Collège d'Europe à Bruges porte son nom, mais on peine à trouver davantage. Le pacifisme de Bertha von Suttner était pourtant étroitement lié à son idée de l'Europe, pour laquelle elle a commencé dès la fin du 19e siècle à imaginer des institutions communes. Avoir raison avec Bertha von Suttner, épisode 4, une Européenne visionnaire. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Claire Hoogdemarle, professeure en études germaniques à l'Université Paris Diderot et autrice de Bertha von Suttner, Amazone de la paix, parue en 2014 aux presses universitaires du Septentrion. Bonjour Marie-Claire Hoogdemarle.
Bonjour.
Également avec nous en studio, Antoine Jacob, journaliste et auteur du livre-enquête « Bertha la paix » à paraître chez Ballant en octobre. Bonjour Antoine Jacob.
Bonjour.
Cher monsieur et ami, êtes-vous bien portant? Il y a longtemps que je n'ai de vos nouvelles et cela m'inquiète. Je voudrais tant forcer votre amour. Pas pour mon insignifiante personne, mais pour la grande cause que je sers et qui serait si digne de vous passionner, vous qui êtes si amoureux des grandes idées de progrès social. L'avènement du siècle nouveau pourrait être l'occasion d'une convention entre les nations d'Europe, d'instituer une confédération, un tribunal permanent. La convention de Genève, grâce aux efforts d'un seul homme qui a employé son énergie et sa petite fortune, a bien abouti à faire arborer la Croix-Rouge. Avec une action également énergique, nous pourrions arriver à faire arborer le drapeau blanc. Dans cette lettre adressée à Alfred Nobel en novembre 1896, Bertha von Suttner évoque son rêve d'une convention, d'une confédération ou d'un tribunal permanent entre les nations européennes. C'est le reflet d'une vision avant-gardiste de l'Europe. Pour comprendre cette vision, il faut peut-être commencer par présenter l'Autriche-Hongrie dans laquelle elle évolue. À quel point, Marie-Claire Hoogdemarle, est-ce qu'elle assiste à un tournant dans l'histoire de l'Empire?
Bien entendu, elle assiste à un tournant et un tournant qui touche aussi à son propre itinéraire, sa propre vie. C'est en quelque sorte parallèle parce que elle est née à Prague, il est vrai, mais dans l'aristocratie autrichienne. Donc, elle a vécu une Europe. Dans un premier temps, elle est née d'ailleurs dans la première partie du 19e siècle, il faut pas l'oublier, en 1843. Donc pendant 30 ans, elle vit dans une Europe qui est encore ce que Stefan Zweig appellera plus tard le monde d'hier, c'est-à-dire une Europe où il y a un cosmopolitisme européen, c'est-à-dire que l'élite aristocrate de l'Europe se rencontre, va de capitale en capitale, et elle n'a pas d'autre vision de l'Europe pendant un premier temps. Ça n'est que plus tard, quand il y a justement des grands changements, un tournant dans l'histoire de l'Autriche, mais aussi dans l'histoire de l'Europe de manière générale, que sa vision d'Europe va complètement changer. Elle va apprendre, elle dit à un moment dans ses mémoires, elle parvient à la conscience européenne.
Et alors, avant de parvenir à cette conscience européenne, Antoine Jacob, Marie-Claire Hoogdemarle évoquait ces nobles qui vont de capitale européenne en capitale européenne. Elle-même, elle était voyageuse et polyglotte. Est-ce qu'elle se sentait européenne à ce titre ? En tant que polyglotte, en tant que quelqu'un qui voyageait beaucoup sur le continent?
Je pense qu'au départ, elle ne se voyait pas comme ça, puisqu'elle était issue de son milieu, qu'elle ne reniera d'ailleurs jamais, cette aristocratie assez privilégiée qui, effectivement, va de ville en thermale, en cité balnéaire. Enfin, donc, il faudra attendre au moins ses 30 ans et son long voyage, son séjour même de 9 ans en Géorgie, enfin dans la petite province de Mingrélie, qui à l'époque est sous l'influence tsariste, mais qui est dans l'actuelle Géorgie, pour qu'elle elle prenne conscience d'une d'abord qu'elle regarde l'Europe d'un petit peu de plus loin, enfin de l'extérieur quasiment, en tout cas de ses marges dans le Caucase, et qu'elle prenne conscience effectivement du fait qu'il y avait dans ces, malgré toutes les haines que se vouaient les peuples européens et leurs dirigeants bien sûr, eh bien il y avait une sorte de terreau qui pouvait mener à une entente entre les pays, les nations, les peuples, à condition de parvenir à la paix. Pour elle, la paix était l'étape obligatoire pour parvenir à une sorte de fédération européenne dont on pourra parler ensuite, je pense.
Et Marie-Claire Hoogdemaele, donc cette expérience en Mingrélie dans le Caucase, c'est effectivement une expérience de décentrement. Vous diriez aussi que ce décentrement a modifié sa vision de l'Europe ?
Absolument. Absolument. D'abord parce que en Mingrélie, enfin en Géorgie, où elle est partie pour des raisons assez baroques,
voilà,
disons,
rocambolesques,
effectivement, elle va beaucoup lire. D'abord, elle va mener une vie beaucoup plus humble, puisqu'elle vit de leçons qu'elle donne, etc. Mais elle va surtout beaucoup lire. Et elle va se forger une idée de l'Europe, une Europe qu'elle saisit, comme l'a dit Olivier, de façon très extérieure. Et elle va se forger une vision quand même très utopique de l'Europe, à partir de diverses lectures d'ailleurs. Elle connaît bien sûr le fameux discours de Victor Hugo en 1849. Elle a lu Mazzini. Enfin bon, bref, elle a
le discours de Victor Hugo.
Oui.
Sur les États-Unis d'Europe, où il est
sur les États-Unis d'Europe, effectivement. Et elle va donc développer une image très idéalisée, parce qu'elle saisit l'Europe à distance. Et cette image, quand elle revient à Vienne en 1885, ça va être la déception terrible. Parce que l'état de l'Europe réelle a complètement changé et elle va y trouver divers maux qu'elle va commencer à combattre.
Et parmi ceux-là, il y a peut-être la montée des nationalismes. Comment est-ce qu'elle l'appréhende, Antoine Jacob ?
Ah, pour elle, c'est un des, effectivement, des cauchemars que doivent vivre les Européens. Le nationalisme, l'impérialisme et le
militarisme.
Le militarisme, voilà, sont
les trois mots.
Ismes qu'elle déteste. Et elle sera tout contente d'ajouter le pacifisme de manière à essayer de faire une sorte d'équilibre de manière un peu chimérique. Mais bon, elle tentera malgré tout d'imposer ce isme-là.
Oui. J'ajouterais l'antisémitisme.
Effectivement, mais
qui à Vienne à cette époque-là est extrêmement représenté, très fort, puisque c'est l'époque du maire de Vienne, Karl Lueger, etc. Donc, et son mari va d'ailleurs créer une ligue contre l'antisémitisme à laquelle bien sûr elle adhère.
Oui, et ça a été en fait leur premier combat à leur retour du Caucase, la lutte contre l'antisémitisme. On a en parlé dans l'émission d'hier sur leur engagement militant. Malgré cette montée des nationalismes et au-delà des lectures qu'elle a pu faire, est-ce qu'il y a concrètement à cette époque une notion de culture européenne commune ? Est-ce qu'il y a le début de l'émergence d'une idée européenne qui se développera surtout après dans l'entre-deux-guerres puis dans l'après-seconde guerre mondiale ? Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y a déjà le ferment de cette idée ?
Il y a effectivement une certaine idée de l'Europe qui a repris des forces autour de 1848, de manière générale. Je ne parle pas de Bertha von Suttner plus précisément. Et qui se renforce au moment du fameux printemps des peuples qui a lieu aussi à Vienne comme à Paris et à Berlin. Mais c'est une idée qui va un peu végéter. Il y a des mouvements pacifistes qui vont commencer à se former, mais ils ont énormément de mal à s'imposer. Très difficile, parce que l'atmosphère générale, la situation générale de l'Europe, à partir de 1850, va vers la guerre.
Et c'est précisément ce que va redouter de plus en plus Bertha von Suttner. Antoine Jacob, vous diriez que pour elle, l'idée de réfléchir à des institutions européennes, réfléchir à l'Europe en tant qu'entité, c'est avant tout quelque chose qui est lié au pacifisme. C'est un moyen, en fait, plutôt qu'une fin, c'est le moyen d'arriver à la paix.
Je dirais que ce sont les deux à la fois, je pense, pour elle. Mais effectivement, son but ultime à elle, elle le dit tout le long de ses ouvrages, c'est, à partir du moment où elle a pris conscience de ça, c'était d'arriver à un désarmement des nations, l'éradication des armées et une sorte de fraternité aussi. Elle en parle entre les peuples, mais une fraternité qui serait décidée d'en haut, puisque en fait, tout son travail quotidien consiste à écrire des lettres à des tribunes pour essayer d'influencer les leaders politiques de l'époque, quoi. Elle cherche avant tout à jouer sur ce levier-là, étant donné l'entre-gens qu'elle a, étant donné son passé d'aristocrate, etc. Elle pense pouvoir arriver par ce moyen-là, oui.
Et au Congrès universel de la paix de Berne en 1892, là, elle prend une nouvelle initiative. Elle présente une motion qui porte entre autres son nom, la motion Moneta Kapper-Suttner, qui évoque une union fédérale de l'Europe. Que propose exactement cette motion, Marie-Claire Hoogdemarle?
Oui, alors c'est très intéressant cette motion Sota Kappa Moneta, d'abord parce que c'est une motion présentée par une femme, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Et puis c'est intéressant parce que on voit à travers cette motion comment Bertha von Suttner, entre autres, cherche à vraiment définir la notion d'Europe. Parce que quand elle présente la notion, elle parle en allemand d'un Europäischer Staatenbund, c'est-à-dire une confédération. Une confédération des États européens. Et la motion est acceptée, mais le texte en est changé. Et il n'y a plus cette idée de confédération qui apparaît, mais dans le texte, c'est une union fédérale. C'est pas la même chose. C'est parce que la confédération à la Suttner qu'elle présentait, c'est en fait le modèle suisse. Alors que le texte qui est dans la motion parle d'une union fédérale, c'est l'idée fédéraliste que représentait un Charles Lemonnier, par exemple, à l'époque, qui est différente. C'est une fédération, ce n'est pas une confédération.
Et
pendant ce congrès, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'à un moment, elle monte à la tribune pour expliquer justement un peu cette motion et essayer de désarmer un peu les critiques éventuelles qu'on pourrait lui faire en disant justement qu'elle renonçait au terme d'États-Unis d'Europe, qu'elle aurait bien aimé, elle, imposer, mais que, étant donné l'idée qu'on peut s'en faire, dit-elle, il serait préférable finalement non pas d'utiliser les États-Unis d'Europe, mais cette union fédérale, les États-Unis, d'après elle, faisant trop référence aux États-Unis d'Amérique, et d'après elle, c'est un peu prématuré d'en arriver là, quoi. Donc,
oui, elle dit même que on ne peut pas, parce qu'il y viendra quand même à cette idée des États-Unis d'Europe, mais plus tard, mais qu'il ne faut pas à cette époque-là employer le terme d'États-Unis parce que le terme des États-Unis, États-Unis et américains, est ONI en Europe. Elle emploie le terme de ONI en Europe au point que on ne peut pas l'employer à ce moment-là.
Et c'est vraiment le cas. Il est vraiment ONI. Pourquoi il est ONI?
Parce que, par exemple, la revue de Charles Lemonnier, qui parlait des États-Unis d'Europe, elle est interdite de diffusion en Autriche, en particulier. Alors, pourquoi elle ne le dit pas, mais ça n'est en tout cas pas employé.
Moi, je me demande si c'est pas interdit essentiellement parce que ça vise un peu à affaiblir des nations. Et que d'ailleurs, elle doit le dire. Moi, mon idée d'union fédérale, il ne s'agit pas de créer une sorte de confédération telle quelle, mais qu'au sein de cette confédération ou de cette union fédérale, il y aurait des États totalement indépendants, mais qui œuvreraient dans la même direction, celle de la paix. En fait.
Oui, c'est l'idée de confédération, justement.
C'est ça.
France Culture, Avoir raison avec Bertha von Suttner, Marco Loridon.
On est avec vous, Antoine Jacob et Marie-Claire Roux de Marle, pour parler de la vision de l'Europe de Bertha von Suttner, qui a beaucoup consacré ses derniers écrits, et notamment dans le livre « Lettres à un mort » paru en 1904. Elle parle beaucoup de l'Europe à venir. Qu'est-ce que c'était ce livre, Marie-Claire Roux de Marle ?
Alors, on peut pas dire que ce soit un livre, puisque ce sont des lettres fictives qu'elle adresse à son mari qui est décédé. C'est un peu macabre, mais c'est quelque chose entre du journal, des articles de journaux et des essais. Et elle consacre d'ailleurs un certain nombre de ses lettres aux massacres en Serbie qui ont lieu à cette époque-là. Elle est très consciente de ce qui se passe dans l'Europe. Et elle écrit, un essai, qui s'appelle en allemand « Das werdende Europa », c'est-à-dire « L'Europe en devenir ». Un titre qui est vraiment très très intéressant et qui est écrit donc au moment où et en opposition à ce qui se passe en Europe, que ce soit en Serbie, que ce soit les pogroms qui ont lieu à l'Est ou que ce soit les expéditions coloniales. Il y fait allusion par exemple, et ça, le leitmotiv de cet essai, c'est l'idée que les peuples, les nations doivent confluer. Elle emploie sans arrêt ce terme, confluer, se mêler mutuellement. Elle a donc une vision aussi d'une Europe qui est plurielle, c'est-à-dire justement dans cette idée de confluer, il y a un apport qui vient un peu de partout. Et surtout, c'est une Europe en perpétuel devenir. C'est pas une Europe fixe, et c'est évidemment en opposition au nationalisme, qui est quelque chose de bien réel, de bien fixe, de bien repérable. Et puis c'est une Europe qu'elle situe dans un cadre internationaliste, qui va devenir une notion très forte chez elle à partir des voyages, en particulier aux États-Unis.
On y reviendra.
Et donc une Europe qui est partie prenante, mais à égalité, parce que cette idée de confluer, c'est confluer à part égale, à égalité, dans le monde entier.
Comment vous diriez, du coup, Antoine Jacob, que cette vision de l'Europe, elle a évolué entre la motion Kapper-Moneta Suttner dont on parlait et ces derniers écrits sur cette Europe en devenir ?
Mais là, ça m'amène à me parler des États-Unis, puisque et de toutes ces impressions de voyage, quand on raconte les impressions qu'elle avait aux États-Unis, ça l'a bien sûr beaucoup impressionnée. Et donc, elle en revient effectivement avec l'idée. Elle réalise d'une part qu'il y a ce nouveau monde qui est en pleine expansion et que finalement l'Europe, alors qu'auparavant c'était les Européens qui dirigeaient un peu tout le monde avec leurs colonies, etc. Maintenant, avait affaire à un partenaire au moins sur un pied d'égalité. Donc, elle englobe l'Europe dans un monde beaucoup plus ouvert qu'auparavant, et ça l'amène à toujours à croire en fait à une sorte de En fait, elle prône la victoire d'une civilisation, de gens civilisés. Elle parle des hommes cultivés. Elle parle d'ailleurs des hommes. Et pas des femmes cultivées, mais elle parle l'homme cultivé et celui qui doit un peu prendre en main cette Europe, et l'homme de culture, voilà, à un moment elle parle des hommes de raison, d'un type d'essence supérieure même. Donc c'est assez étonnant, mais bon, c'est sans doute dû à son passé aristocrate, voilà. Donc c'est l'Europe, c'est la civilisation, et les États-Unis maintenant sont un autre pôle de civilisation en quelque sorte.
Et oui, parce que donc il y a ces voyages aux États-Unis, qui ont influencé sa pensée sur sa vision de l'Europe, mais sur sa vision du militantisme aussi. Est-ce que le rejet qu'elle avait de la formule États-Unis d'Europe à la fin du 19e siècle, elle va un peu, ça va un peu changer avec les voyages aux États-Unis qu'elle fait au début du 20e siècle?
Tout à fait. Alors, cet impact des voyages, elle en a fait deux, des voyages aux États-Unis, on le voit dans ce qu'on vient d'évoquer, l'Europe en devenir, avec cette idée plurielle de confluer. Et dans cet essai, elle parle d'ailleurs de l'américanisation du monde. Mais bon, ça peut un peu interpeller parce que ça peut être perçu comme quelque, comme un danger.
Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ?
Et ça n'est pas un danger pour elle, justement parce qu'elle a cette idée de se mêler, de confluer, etc. Et donc, elle s'explique là-dessus dans son dernier roman, qui a un drôle de titre d'ailleurs, qui s'appelle « Les hautes pensées de l'humanité », roman d'un proche avenir. Enfin, elle a des titres assez difficiles à traduire d'ailleurs. Et dans ce roman, qui date de 1910 quand même, elle fait intervenir... un personnage fictif, mais qui en réalité est Carnegie, parce qu'elle a rencontré Carnegie. D'ailleurs, elle aura une bourse de Carnegie à la fin de sa vie. Et
donc le philanthrope américain.
Oui, elle a fréquenté en fait le roi de la dynamite qui est Nobel et le roi de l'acier qui est Carnegie. Donc elle a des relations assez particulières, mais assez importantes. Elle lui fait dire dans son roman, Carnegie, « Tout ce que nous avons, nous le tenons de vous », dit Carnegie, très respectueux de l'Europe civilisée, justement, qu'on évoquait à l'instant. Et l'héroïne du roman, qui en fait est Bertha von Suttner, lui répond « Vous allez nous le rendre au centuple, tout ce qui va améliorer notre avenir, vous allez le transporter chez nous ». Donc c'est une américanisation, mais c'est pas une pacifique d'une certaine façon. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que son idée justement de pluralité supérieure qui est évoquée à l'instant, ça rappelle la devise des États-Unis, la devise d'alors des États-Unis. Elle a changé entre-temps, qui était « ex pluribus unum ». À partir de plusieurs, un seul, une unité, une supériorité, on pourrait dire. Donc, c'est très important, très important et très nouveau.
Et alors, c'est nouveau. Est-ce que vers la fin de sa vie, elle va justement dépasser l'idée d'une Europe simplement pacifiée pour aller vers l'idée d'une Europe carrément unifiée, ou on n'en est pas encore là, Antoine Jacob ?
Non, à ma connaissance, elle n'en est pas encore là. Et il faudra attendre l'entre-deux-guerres, là, avec notamment Koudenov, Kalergi, qui va lui prôner une plus grande... On peut même pas parler encore d'intégration. Enfin, tout le monde, c'est sur cette route-là. Donc, elle est encore... Elle est en but en même temps dans sa vie quotidienne à plein de problèmes. Donc, elle essaye de se démener avec tout ça. Elle n'a pas vraiment, je pense, de vision politique de l'Europe, si je puis me permettre. Enfin, à moins que vous souhaitiez apporter une précision.
Non, je suis tout à fait d'accord. Elle a, en particulier, vous évoquez des difficultés. Elle est désespérée de voir le mouvement pacifiste, par exemple, se dégrader, devenir amorphe d'une certaine. Elle le secoue, hein, mais elle n'y arrive pas. Simplement, j'aimerais dire, effectivement, elle n'a pas une idée vraiment finie de l'Europe, mais elle va quand même employer dans son discours du prix Nobel en 1905, elle le tient en 1906, le terme de États-Unis d'Europe.
Donc elle vient finalement.
Et surtout, mais ça a été retrouvé que beaucoup plus tard, c'est elle qui invente le terme de pan-Europa, qui va être repris par Koudenov Kalergi par la suite pour désigner ce grand ensemble d'une Europe où tout est mêlé, où tout conflit. Et elle est l'inventeur d'un vocabulaire extrêmement moderne, puisque c'est elle qui crée aussi le terme de Weltkrieg, c'est-à-dire guerre mondiale. Alors qu'elle meurt deux semaines avant le début de la Première Guerre mondiale.
Et est-ce que Koudenov Kalergi, justement, et tous les pan-européistes de l'entre-deux-guerres vont lire ces textes, se référer à elle ou pas du tout ?
Non.
Donc elle
tombe dans un oubli redoutable, et d'ailleurs elle ne renaît de ses cendres, enfin de cet oubli, que en 1940. Bon, dans le livre de Stefan Zweig, le monde d'hier.
Oui, qu'on a cité dans la première émission où il lui consacre quelques paragraphes, en effet.
Oui. Et très admiratif, d'ailleurs. Et puis, dans une séance à Paris, d'ailleurs, où Madame Roosevelt va tenir le discours 1948 et où elle évoque, en passant, Bertha von Suttner. Donc, et il faut attendre...
Que Theodore Roosevelt avait reçu aux États-Unis.
Oui. C'est pas le même Roosevelt.
Oui, mais du coup, c'est...
c'est pas le même Roosevelt.
On peut se dire cet héritage américain qui a peut-être donné plus de crédit à Bertha von Suttner qu'elle en avait eu en son propre pays.
Elle avait laissé des traces, je pense, à la Maison Blanche de l'époque.
Et puis, tout de même, 1952, Festival de Cannes, le film Herz der Welt, donc le cœur du monde, qui est donc projeté sur la croisette, qui raconte la vie de Bertha von Suttner, qui est incarnée par une actrice allemande. C'est un film allemand, et donc elle refait le fil de sa vie à bord d'un train. Donc c'est un... Tout d'un coup, elle réapparaît un peu dans le paysage.
Et c'est un film ouest-allemand, du coup.
Oui, c'est un film ouest-allemand, c'est ça. Et qui ensuite aura une carrière aux États-Unis sous le nom de The Alfred Nobel Story, déjà, vous voyez.
Oui, bah, tout à fait. Et comme
C'est très curieux.
Oui.
Tout d'un coup, le film... J'ai regardé le film, je crois que Alfred Nobel n'apparaît qu'à la 30e minute. Mais aux États-Unis, on l'appelle le film The Nobel Story.
On a diffusé un petit extrait de ce film dans la première émission, et on a également diffusé dans des précédentes émissions des extraits d'un film autrichien plus récent de 2015 qui s'appelle également Madame Nobel, de manière assez discutable peut-être. Et du coup, c'est vrai que son héritage est quand même lié complètement à encore un personnage masculin derrière laquelle on continue de la cacher un peu. Antoine Jacob, vous avez entrepris un voyage sur ces traces relatées dans votre ouvrage Bertha La Paix à apparaître en octobre. Est-ce que vous avez trouvé des endroits où sa mémoire est quand même un peu plus vive?
Alors à Vienne, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de monument.
Un pont. Il y a une rue.
Je suis allé dans la rue, excusez-moi, c'est une gasse déjà, c'est au milieu de
dites-nous gasse, ça veut dire quoi?
Mais les vignes, c'est une petite rue. C'est pas mal.
Certes, mais là en l'occurrence c'est vraiment une gasse toute poussiéreuse, avec des... Bon, il y a une école juste à côté, une école maternelle, et puis ce sont des immeubles en train de pousser comme ça au milieu des terrains vagues, donc c'est pas très. Il y a aussi un ensemble de d'immeubles communaux qui portent son nom, avec une petite statue sans c'est symboliser son best-seller. Il y a un lycée aussi le long du Danube, un lycée flottant qui s'appelle Bertha von Suttner. Et puis voilà, c'est à Graz.
Il y a eu un billet.
Il y a un billet de 1000 shillings, effectivement, imprimé en 1966 quand même. 1000 shillings à l'époque, ça équivaut à 73 euros. C'était le plus gros des billets à l'époque.
Et donc elle a perdu en valeur puisque maintenant elle est sur les pièces de 2 euros autrichiennes.
Oui, c'est exact.
Mais espérons que la sortie de votre livre redonne un peu de visibilité à cette femme injustement oubliée. Merci beaucoup, Antoine Jacob et Marie-Claire Hoogdemarle. Les références de vos ouvrages sont à retrouver sur le site de l'émission. On se retrouve demain à la même heure pour le dernier épisode de notre série sur Bertha von Suttner, et je recevrai Anne-Laure Briat pour parler de son rapport au féminisme. Merci à Henri Leblanc qui m'a aidé à préparer ces émissions. Merci à Olivier Bétard pour la réalisation et à Grégory Wallon pour la technique ce matin.